Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Imo.
Et bien voilà les amis, nous sommes le vendredi 15 mars et c'est la dernière journée du MIPIM. On est heureux d'être avec vous. Il est quasiment 11h, on est royal au bar puisqu'on a un paysage absolument magnifique et il y a un peu de soleil. Donc on va aussi en profiter. La planète immobilière s'est réunie pendant ces 4 journées, 105 pays. Alors je ne vous parle pas le nombre de langues qu'on a pu parler en 4 jours. Vive l'intelligence artificielle. Et on s'est dit, on va finir comme des rebelles à la fin de la semaine. Et rebelles, il s'agit d'ailleurs, avec une singularité. Alors moi, vous le savez, j'aime beaucoup les histoires qui ont des aspérités, qui ont des singularités. Avec un style remarquable. Je suis ravi d'accueillir sur le plateau. On va démarrer cette matinée avec lui. C'est Jean-Charles Goyèche. Comment ça va, Jean-Charles ?
Très bien, merci de l'accueil.
Vous êtes magnifique. Vous êtes très beau.
Je vous renvoie le compliment.
Et c'est le genre de question quand on pose la seule coude.
Voilà.
Merci Jean-Charles. Donc l'idée, on est à la radio, donc c'est un média intime. Donc on va évoquer comme ça l'histoire, la formidable histoire de Rebelle, votre groupe dont vous êtes le cofondateur. Alors vous, clairement, vous êtes le spécialiste du co-living.
Au Québec, on s'est implanté comme les pionniers. En fait, c'est vraiment c'est bien connu en Europe depuis plusieurs années. Au Québec, on est, je pourrais dire, assurément dans les leaders de l'industrie. Ouais.
Un groupe qui a été créé il y a 4 ans.
4 ans, on souffle les bougies du 4e anniversaire.
Qu'est-ce qui vous a inspiré lorsque vous avez eu cette idée de dire, voilà, je vais racheter en bloc, parce que vous faites de l'achat en bloc, d'immeubles qui étaient obsolètes ou à rénover. Donc déjà, ça demande un certain courage. Au lieu de lever de l'equity, vous avez levé 100% de dette et vous êtes devenu très rapidement break-even, donc c'est-à-dire rentable, avec un modèle assez vertueux. Racontez-nous ça, parce que franchement, c'est exceptionnel.
Le point de rupture ou le moment épiphanique, je peux dire, c'est vraiment... initialement, le plan était d'acheter des petits hôtels. En Amérique, on a ce qu'on appelle les motels, donc les petits établissements routiers de moins de 40 unités. Donc, on avait acheté 3 petits établissements comme ça et boum, la pandémie nous éclate, fermeture des établissements hôteliers et on s'est converti rapidement à loger des gens de manière annuelle.
Au début, vous voulez dire vous étiez hôtelier, quoi.
Ouais.
Ouais. Vous vouliez faire de l'exploitation hôtelière.
De Rebelle Hôtel, ouais. Était à la base, la souche de
pas mal.
Et c'était une chaîne de petits hôtels. C'était le plan d'affaires était de faire une chaîne de petits hôtels dans la région et de finalement fédérer les petits motels qui étaient de toute évidence laissés sans chaîne. Donc il y avait pas de il y avait pas et on voyait dans le segment de marché de l'hôtellerie que c'était très peu desservi le motelling. Donc on cherchait à percer ce marché et finalement organiquement on a découvert le co-living avec les établissements et pour nous c'était épiphanique, c'était un breakthrough. Pour nous, c'est vraiment le moment qui a fait changer la trajectoire. Et là, on a vraiment frappé dans
les plus grands actifs. Est-ce que vous aviez perçu, vous aviez déjà des éléments, j'allais dire sociologiques, qui vous permettaient de dire, bon, la génération qui arrive, d'ailleurs votre génération aussi, les trentenaires qui seront en galère parfois pour le logement, qui ont une vision finalement assez mobile du logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont chez vous, demain, ils sont ailleurs. Et ils trouvent des solutions clés en main pour ce qu'on appelle ici en France l'immobilier opéré. Je ne sais pas si on dit la même chose au Canada.
Non, on ne dit pas l'immobilier opéré, mais pour nous, c'est l'immobilier locatif. Il y a moins peut-être de nuances là, dans le type de nomenclature. Nous avons découvert que la génération X ou même le millénial, ce qu'ils cherchent, c'est d'abord et avant tout un lifestyle, un mode de vie. Puis le mode de vie vient aussi avec une communauté. Donc, ce qui nous allume vraiment avec le modèle d'affaires du co-living, c'est la communauté driven. C'est le concept que la communauté passe d'abord avant le confort et l'opulence des lieux. C'est vraiment le focus est d'abord sur l'humain. Et pour nous, ça représentait vraiment les valeurs qui étaient, qui était importante afin de performer. Et ultimement, ça s'est traduit aussi avec un succès au niveau de la clientèle, parce que la clientèle, finalement, reste beaucoup plus longtemps qu'on avait prévu. On pensait rester un an, mais il reste avec nous 2 ans, 3 ans.
Donc, c'est en mode communautaire, quoi. En fait, vous êtes en train de réinventer le kibbutz urbain. c'est intéressant parce que vous faites redécouvrir aux gens la vertu de vivre ensemble.
J'aime penser que c'est...
des espaces communs, ouais. Des espaces d'échange. Ouais. Vous êtes acteur de la rupture de la solitude en ville.
Absolument.
Pour des jeunes qui arrivent, des jeunes actifs. Hein. Je prends un jeune actif qui arrive à Montréal parce qu'il a été muté, où il ne connaît personne. Voilà.
C'est presque 30% de notre clientèle, une clientèle immigrante. Donc, des personnes immigrantes.
Je signe chez Rebelle et en 3 semaines, je me suis fait des potes, des amis.
Et c'est sécure. Le concept de sécurité. Donc, même le parent qui, ou la, je veux dire, le parent au sens large, la conjointe, le conjoint que son mari s'en va vivre au Canada, ben, de comprendre, de saisir qu'il est dans un écosystème, dans un complexe, sécurisé avec plusieurs autres individus, mais sans partager la même unité. On se comprend, ils vivent pas ensemble dans le logement privatif.
Ils vivent
ensemble dans le complexe.
Vous avez inventé des espaces communs de partage. Communautaire, mm-hmm. où on peut se marrer, jouer, échanger, mais parfois même s'inviter, cuisiner, et des espaces très indépendants où chacun a son repère, plus ou moins grand selon l'offre proposée.
Absolument.
Alors, ça veut dire que vos unités sont très différentes les unes des autres.
Ou
est-ce qu'on a un modèle très standardisé?
Non, c'est peut-être la beauté du modèle actuellement chez Rebelle Investissement, c'est nous avons une forte tendance à recycler le patrimoine bâti. Donc, on a une faible... c'est rien à comparer l'Europe. Donc, notre patrimoine bâti, il y a 200, 300, 400 ans maximum. Là, donc, on se comprend. Mais des monastères, des vieux couvents, donc du patrimoine religieux, on les convertit en habitation collective, donc en co-living. On va acheter des hôtels des années 50, 60, 70 qu'on va convertir. On se porte acquéreur aussi des résidences pour aînés, des résidences pour personnes âgées. Donc, on sont déjà quand même bien aménagés.
Donc,
pour...
vous allez faire... C'est de la résidence gérée.
Oui.
Que vous gérez, parce que, si j'ai bien compris, que je comprenne bien, qu'on comprenne bien, nous, on connaît bien le modèle d'allocation d'actifs sur de la gestion globale, parce que vous êtes sur toutes les filières métiers, hein, vous faites de la gestion intégrée, vous faites de l'immobilier opéré, c'est-à-dire qu'en fait, vous exploitez, donc vous allez vous mettre en conformité avec la législation, bien sûr, parce que en France, comme au Canada, il y a un système de régulation qui est assez puissant.
Je vous rassure aussi.
Au Canada,
c'est une grande barrière à l'entrée.
Non, mais ce qui est génial au Canada, c'est que vous avez fait une chose remarquable que les Français n'ont jamais su faire. Et là, c'est total respect. Vous avez réussi à créer Centris. Alors là, franchement, c'est une réussite remarquable.
Absolument.
Au lieu de laisser à des entreprises privées le bénéfice de la recherche immobilière et de l'historiographie immobilière, vous avez créé Centris, qui est un outil qui appartient aux fédérations des chambres du Québec. Et ça, c'est une chose exceptionnelle. On a fait pas mal de reportages sur ce modèle qui, malheureusement, n'a pas su se transporter en dehors des frontières. Un peu la Belgique, puisqu'il y a un ordre belge qui s'appelle l'IPI, qui est très intéressant, l'Institut des professions immobilières. Et donc, je trouve ça extrêmement remarquable. Combien d'unités aujourd'hui vous gérez chez Rebelle?
Aujourd'hui, on gère, avec les projets en construction, on est entre 550 et 600 unités locatives.
Est-ce que, dans votre groupe, vous et votre compagne, qui est présidente du groupe, vous maîtrisez 100% du capital?
On maîtrise, pas 100%, parce que certains produits, certains immeubles qui vont être en partenariat avec des co-développeurs. Mais oui, Rebelle Investissement est 100% une entreprise familiale détenue avec Laurence Moretti. Ouais.
Et c'est quoi votre modèle économique? Alors justement, c'est quoi le souhait de Rebelle? Vous avez affiché une ambition. Je vous ai dit, Rebelle dans 5 ans, c'est quoi?
Rebelle dans 5 ans, on a un plan quinquennal assez ouvert sur le monde. Donc pour nous, il y a vraiment une prise de position en Europe qui va être prise dans les 18-24 mois.
Vous ambitionnez d'avoir une position mondiale et internationale, avec en priorité en ligne de mire l'Europe?
Oui, absolument.
Est-ce que vous intéressez au marché américain?
Le marché américain, à notre avis, est pas assez mûr pour... Moins mûr, assurément moins mûr que
l'Europe. Dans les grandes métropoles, je veux dire, par exemple, New York, Boston, Détroit.
On y va pas avec le marché immobilier. On y va avec le marché social.
Mais, c'est intéressant ce que vous dites.
Et le marché social, on n'est pas au même endroit.
Oui. Développer, c'est intéressant ce que vous dites.
Ben, vous savez, on s'inspire beaucoup de l'urbanisme. Okay? Donc, une ville où l'urbanisme a été bien réfléchi, où est retravaillé continuellement, on voit vraiment les mouvements sociaux démographiques dans une communauté de type quartier. Okay? Nous, on s'inspire beaucoup de cette inspiration-là pour aller implanter nos actifs. Donc, lorsqu'on analyse un immeuble ou une implantation, pour nous, c'est important d'aller saisir
l'histoire, la sociologie, quartier, la composition et l'évolution potentielle, bien évidemment, des quartiers.
Évidemment.
Donc, vous pariez
oui.
sur des zones sur lesquelles, naturellement, certains promoteurs n'y seraient pas allés pour justement dire « ce quartier est en devenir ».
Étant quelqu'un du marketing, pour moi, c'est important d'analyser la donnée.
Je vais prendre un exemple. Paris, Île-de-France, c'est 1/5 de la population française.
Ouais.
Entre 8 départements. 8 départements. Plus grosse région de France, bien évidemment. Je pense à 3 villes qui confortent complètement votre vision des choses. C'est qu'il y avait la ville d'Aubervilliers. La ville de Pantin
oui.
et la ville des Lilas,
oui. hein,
Lilas-Bagnolet. Moi, j'habite pas très loin, parce que j'habite à côté de Vincennes, donc à la frontière de Bagnolet et de Rosny-sous-Bois. Ce sont des zones dans lesquelles, il y a 15 ou 20 ans, il n'y avait pas un promoteur qui allait, avec des créations de valeur qui étaient très faibles. Et donc, vous, typiquement, quand vous arrivez sur ces types de secteurs, vous allez arriver à finalement implanter ce type de solution. Donc, ça veut dire...
On va aller créer un arbitrage.
Quand vous travaillez cet immeuble, vous savez que vous allez importer une population... qui va faire monter le niveau, en fait, local, revitaliser peut-être le quartier, non ?
C'est ambitieux de se mettre cette responsabilité, mais vous avez raison, ça crée une vitalité.
On appelle ça de la mixité d'usage.
Absolument. On vient à créer une vitalité et fait important. Peut-être qu'on n'en a pas parlé, mais tous nos actifs sont multigénérationnels. Donc, c'est pas directement
les... C'est-à-dire, donnez-nous un ordre. Ça va de quoi ? De 20 à 70 ans ?
Non, de 8 à 88. De 18 ans, pardon, à 88 ans. Donc, madame de 88 ans va préparer la soupe pour les jeunes et le jeune va montrer la technologie à madame quand il y a un enjeu sur...
C'est de l'intergénérationnel.
Absolument.
C'est génial. Hein?
Absolument. Donc,
il y a un système d'aide, est-ce que vous avez mis en place, je ne sais pas moi...
Oui, des applications.
Est-ce qu'il y a de l'autopartage pour les courses, pour le ménage, enfin voilà, tout ça. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est un vrai niveau de turbin, je vous le dis.
C'est un
lieu communautaire.
Oui. C'est vraiment la communauté.
Mais de bonne qualité, c'est-à-dire de bonne qualité avec un... Est-ce que le standard, il est volontairement high level, enfin, haut de gamme? Ou est-ce qu'on est plutôt sur une... Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais on touche à tous les... Ça aussi, ça fait partie des réflexions stratégiques. Donc, lorsqu'on choisit de s'implanter dans un quartier, on ne va pas dévaloriser le quartier par rapport à la classe d'actifs. Donc, parfois, on a du haut de gamme, du co-living haut de gamme, même
très
assez haut de gamme. Je n'irai pas dans l'ultra, mais assez haut de gamme.
On est sur du luxe ou du prestige?
On est sur du luxe, du prestige, des finis une clientèle fortunée ne voudrait pas se lasser... mais cherche quand même à vivre en communauté. Donc, il n'y a pas une corrélation directe entre le social et l'argent.
Intéressant ce que vous dites. Est-ce que l'impact culture a du sens? Par exemple, est-ce que dans la patte de l'architecture rénovante que vous faites, est-ce qu'il y a un concept? Est-ce qu'il y a une idée, par exemple, de dire, voilà, je mets de la couleur, je mets des œuvres d'art,
toujours.
Je fais découvrir des choses. Je ne sais pas, je connais des grosses boîtes qui font du co-living à Paris. Il y a aussi, de très, très belles entreprises comme Finestate qui est un gros acteur qui est maîtrisé par une grande dame de l'immobilier qui s'appelle Maryse Ollagnon. Alors, le postulat de Maryse, c'est je vais aller dans des quartiers prime, 8e, Champs-Élysées, par exemple, si je prends Paris. Et là, par contre, on a des unités qui sont avec un prix qui correspond. Parce que justement, en termes de prix, de modèle économique, comment vous gagnez votre vie, non pas sur la qualité du mètre carré, mais sur l'exploitation elle-même?
C'est sur les deux.
Les deux.
C'est sur les deux, puisqu'on détient nos actifs. Donc, on a un réflexe d'investissement sur le bien.
Que vous amortissez.
Qu'on amortit évidemment.
Bien sûr. Ouais.
Et on a aussi le réflexe de gestionnaire, donc avoir le meilleur. Plus le mètre carré est loué cher, plus il y a une création de valeur sur l'actif.
C'est clair.
C'est évident. Mais maintenant, pour avoir un mètre carré optimal, donc avec le concept de tout inclus, on doit choisir une clientèle qui est prête à payer. Et pour ça, ben oui, ça prend des attraits circonstanciels. Donc, pas seulement la communauté ou le mobilier, etc. Ça va être aussi dans le contexte, dans la région.
Ça donne envie d'en savoir plus. Voilà, on va aller sur le site de Rebelle. www.rebelle.
Rebelleinvestissement.com.
Attaché investissement.
Tout est attaché.
Voilà, ouais. Je vais demander à notre ami Jason de mettre le lien vers l'URL du site internet de Rebelle. Bienvenue en France.
Merci beaucoup de l'invitation.
You're welcome. Voilà, vous êtes le bienvenu. Les Français ne sont pas si antipathiques que ça, finalement.
Vous êtes parfait.
Vous êtes les bienvenus et vous êtes surtout les bienvenus avec de nouvelles idées. Et surtout de nouvelles idées, parce qu'en France, on est mal logé, très mal logé. Il y a des situations qui sont désespérantes, des véritables fléaux. Je vais vous donner un chiffre pour conclure. 17% des contrats de travail dans les grandes métropoles n'ont pas pu être signés, faute de logement. Donc vous êtes peut-être une solution pour ces jeunes actifs qui arrivent en ville. Voilà. Merci Jean-Charles Goyèche. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Rebelle. Je pense qu'on va vous suivre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vigilance. Merci à vous.
Merci.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.